RBAFM vous propose la seconde partie de l'émission de Gérard Marty, Mémoire et patrimoine, consacrée à l'histoire de l'école de La Rode dans le Puy-de-Dôme, avec son invité Marie-France Bézy.
Chers auditeurs de RBAFM, bonjour. Bienvenue sur notre antenne pour le deuxième épisode de notre émission Mémoire et patrimoine, consacrée au village de La Rode et à son école, comptée par Marie-France Bézy, notre invitée. Bonjour Marie-France.
Bonjour Gérard.
Voilà, je voudrais que nous reprenions notre échange au point où nous l'avions laissé la dernière fois, c'est-à-dire que vous aviez évoqué la portée des lois Falou et Duruy, portée limitée, mais que d'autres lois allaient venir qui allaient faire évoluer le dispositif.
Voilà, exactement. Et ce sera la République qui va créer l'école que nous connaissons aujourd'hui. En effet, en 1870, il y a eu la défaite de Sedan, et cette défaite fait prendre conscience à la République du retard considérable de l'économie française et donc de la nécessité d'éduquer le peuple pour y remédier. Et cette école sera gratuite, laïque, obligatoire pour les garçons et pour les filles, avec les lois Ferry de 1881 et 1882. Cette école deviendra totalement laïque avec la loi Goblet de 1886 qui révoque les congréganistes, c'est-à-dire les frères des écoles chrétiennes.
Et qu'est-ce que c'est l'école laïque selon Goblet ?
C'est une école dans laquelle l'Église n'a plus la mainmise, ne peut plus intervenir pour enseigner la foi chrétienne.
Par contre, l'Église de son côté continue travail d'éducation religieuse, mais en dehors de l'école.
L'Église, elle aussi, continue ses écoles que l'on appelle privées, avec justement les frères des écoles chrétiennes. Il y en a un peu partout et les parents peuvent envoyer les enfants. Mais cela concerne plus les collèges et les lycées, je crois, que les écoles primaires.
D'accord.
Alors si on en vient à La Rode, moi j'ai été très étonnée de voir que le maire de l'époque, Monsieur Fauverté, a créé à La Rode une école dès l'apparition de la loi. Moi, je pense que ce monsieur devait être un monsieur très éclairé et qui était persuadé de l'importance de l'enseignement, ou alors il était très obéissant, je ne sais pas. En tout cas, il y a une école à La Rode en 1834. Il n'y a pas d'endroit particulier pour cette école. Je pense que l'école se faisait chez le maître, dans un local qu'on louait à cet effet, mais il a été impossible de localiser l'endroit. Beaucoup plus tard, en 1868, Monsieur Rénal, qui est boulanger, fait construire un bâtiment qu'il loue à la mairie, parce que la mairie, elle, n'a pas les moyens d'édifier sa propre école. Nous avons donc des précisions. Ce bâtiment comporte une cuisine, une chambre à coucher, une salle de classe attenante. Au-dessus, le grenier, où l'instituteur peut ranger son bois de chauffage. Et au-dessous, dans l'écurie, un petit emplacement pour mettre le vin et les pommes de terre. Et l'instituteur bénéficie même d'un jardin. Ce bâtiment, qui sera ensuite une auberge, puis un café, va poser bien des problèmes, malgré les différents aménagements apportés. Mais il sera quand même très opportun, puisque jusqu'à la fin du siècle, la mairie ne peut construire.
L'école de La Rode commence avec, comme on dit, les moyens du bord.
Exactement.
Et c'est finalement autant l'initiative privée que l'initiative publique qui contribue à trouver les solutions.
Oui. Enfin, Monsieur Rénal se fait payer.
Alors, évidemment, il y a une volonté précise de la part d'un homme qui a su trouver les solutions.
Alors, en 1878, l'inspecteur, parce qu'il y a déjà des inspecteurs, écrit au préfet « La nouvelle maison d'école est tout à fait insuffisante, tant pour la tenue de la classe que pour le logement personnel. La classe n'a que 30 mètres carrés. Elle devrait pouvoir contenir 90 élèves, la population étant de 1202 habitants. Elle reçoit actuellement 60. » Et le maire, lui, répond à cela « Les renseignements sont très inexacts. » Je ne veux pas dire que nos deux écoles sont dans des conditions parfaites, mais au moins, elles sont passables. Et dans des communes comme La Rode, on est obligé de se contenter de ce que l'on trouve.
Rappelez-nous en quelle année cet échange ?
1878. Il y a beaucoup de choses comme ça, oui. Assez amusantes. En 1881, l'école s'agrandit de 21 mètres carrés, même si l'instituteur n'est pas content parce que son logement, qui est accolé au four du boulanger, est malsain à cause de la chaleur. Et plus tard, nous avons des renseignements remplis par un instituteur en 1884, M. Rode, parce que chaque année, les instituteurs étaient invités à remplir ce formulaire et à dresser le plan des locaux. Alors on leur demande si les classes sont planchéiées, si l'éclairage et l'aération sont satisfaisants, ce qui est le cas. Pas de préau, pas de lieu d'aisance, pas de cours, pas de vestiaire. Ah, il y a une bibliothèque de 69 volumes quand même.
Oui, donc il y a un suivi très volontariste de la part des pouvoirs publics de l'époque.
Et aussi des instituteurs.
Et aussi des instituteurs.
Qui sont parties prenantes et qui sont vraiment convaincus de leur mission.
Voilà, qui sont monteurs, qui sont déterminés à porter le mieux pour les enfants de ces villages.
Quant aux filles, elles reçoivent d'abord l'enseignement, on appelait ça l'enseignement des dames. Alors c'était effectivement des dames qui étaient soucieuses de donner aux filles un enseignement, les mêmes chances qu'aux garçons. Et ce sont bien sûr des dames bien pensantes, et en particulier à la Rode, il s'agissait de la sœur du curé, Mademoiselle Cussa Blanc, qui en 1841 exerce dans le presbytère. Et l'instituteur, lui, M. Verniol, est tout à fait mécontent de ce qu'il appelle une école buissonnière. Il demande qu'elle soit interdite. Par ailleurs, et bizarrement, les habitants du village ne veulent pas que cette école ait lieu parce que l'hiver, les filles qui arrivent avec leurs sabots crottés, pleins de neige, détruisent le plancher du presbytère. Et il ne faut pas oublier que le presbytère, eh bien, ça fait partie des bâtiments communaux.
Le diable se cache dans les détails, si j'ose dire.
Voilà.
Y compris au presbytère.
Alors, donc, évidemment, on n'est pas tout à fait pour cette école, mais l'inspecteur la tolère puisqu'on ne peut pas avoir d'école régulière et légale. Alors, en 1861, il y a une institutrice officielle qui s'appelle Mademoiselle Roux, mais le lieu, on ne le connaît toujours pas.
Et donc ça, c'est le début de l'école publique pour les filles.
Voilà. Elles sont 44 en 1861, mais l'école ne peut en contenir que 31. Et ce sera en 1887 seulement que les filles vont rejoindre l'école des garçons chez M. Rénal, mais évidemment pas dans la même classe, en dessous, dans ce qui était prévu pour une écurie. Parce qu'il n'y a pas du tout de mixité possible.
Ce n'est pas envisageable encore.
Oh non.
Il y avait dans nos villages une cloche au matin clair, des cartables, des pages sages et la poussière de craie dans l'air. Sur le mur, une carte de France regardait nos yeux d'enfant. On apprenait dans le silence à devenir plus grand.
On a la création de l'école, des débuts de l'école de la Rode. Mais ensuite, après, avec le temps, il y a des évolutions. Et quand est-ce qu'on construit véritablement une école à la Rode, ou quand est-ce qu'on équipe véritablement une école publique, communale?
Alors, ça a été le vœu le plus cher de la mairie dès 1834. Mais bien sûr, c'était une question de moyens. Et il y a eu 5 projets. Donc, bon, je ne vais pas vous les raconter tous. Évidemment, c'est le dernier qui a gagné, si j'ose dire. Mais ça a été assez difficile parce qu'il fallait trouver un terrain, il fallait trouver des bâtiments et il fallait répondre à ce que demandait le ministère. Et le ministère était très strict. Il avait envoyé aux mairies des plans pour montrer comment devait être l'école. Car cette école, elle devait être monumentale. Parce qu'elle incarnait la République. Donc il fallait absolument qu'elle impose le respect.
Qu'elle soit à la hauteur de la mission qu'elle devait remplir.
Complètement, complètement. Et puis le ministère envoie plein de recommandations concernant cette école, notamment l'emplacement loin d'un cimetière, loin d'un lieu de vice, qu'il y ait une lumière naturelle importante, qu'elle soit bien chauffée, qu'il y ait une bonne hygiène. Alors pour ça, il fallait faire le ménage, il fallait blanchir les murs chaque année, il fallait qu'il y ait une bibliothèque. Et à ce propos, Paul Bert disait « Il faut que l'école attire l'enfant ». Il faut qu'elle ait de grandes et belles salles, bien éclairées, bien ensoleillées. Il faut qu'elle soit ornée, ornementée, parée. Il faut que nous fassions pour elle ce que nos pères ont fait pour leur église. L'école, c'est notre église laïque à tous. C'est tout dire.
On y arrive.
Voilà.
Alors, on va faire cette école monumentale.
C'est ça. Alors, en 1882, on y est presque. Maintenant, il y a eu un terrible incendie dans le bas du village. Les maisons étaient couvertes en chaume. Il y a eu un orage. Et donc, il y a eu beaucoup de dégâts. Et la mairie a dû venir en aide aux sinistrés. Donc il fallait reporter le projet. Et enfin, en 1891, la mairie achète un bâtiment assez beau, couvert en ardoise, qui se compose d'une grange, d'une maison d'habitation, d'une écurie, d'un jardin. Et surtout, il y a un puits. On construit donc la maison-école, qui est celle que nous connaissons aujourd'hui, avec deux logements spacieux, un pour chaque instituteur, un grenier, deux préaux, quatre salles de classe et bien sûr la mairie au premier, à côté des logements. Évidemment, cette école, elle a beaucoup été remaniée au cours des années, puisque évidemment les bâtiments se dégradent. Et puis l'on peut dire aussi que les effectifs ont énormément diminué. En 1880, il y avait 144 inscrits. Inscrits, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait que 144 enfants. Ça veut dire qu'ils étaient inscrits à l'école, parce qu'il y en avait pas mal qui n'y allaient pas également. Et en 2010, les effectifs ne permettent plus d'ouvrir une école à la Rode, ni dans les villages environnants. On procède donc à un regroupement pédagogique intercommunal qu'on appelle RPI, et qui concerne les communes de Bagnoles, Crot, La Bessette, La Rode, Trémouille-Saint-Loup. Et il y a deux structures, maternelle CP, CE1 à Bagnoles, CE2, CM1, CM2 à La Rode, où il y a à La Rode une vingtaine d'élèves.
Voilà, c'est la situation d'aujourd'hui.
C'est la situation d'aujourd'hui. Je voudrais ajouter quelque chose, parce que je suis allée dans cette école et j'ai rencontré l'instituteur. Et ce qui m'a étonnée et enchantée aussi, c'est que l'école ne se contente pas de donner les cours. À côté, elle propose de nombreuses activités. Les élèves peuvent aller à la piscine, ils peuvent aller faire du ski. Mmh. On fait venir des scientifiques pour des expériences. Il y a vraiment toutes sortes de choses. On n'a rien à envier à la ville.
Il y a une question aussi qui est importante dans cette démarche d'éducation des enfants, c'est la question de la cantine.
Au début, la cantine, elle n'existe pas. Chaque élève apporte sa gamelle qu'il réchauffe sur le poêle dans la salle de classe. Mais en 1902, l'instituteur, M. Terme, qui est pris de pitié pour tous ces écoliers qui viennent des hameaux, imagine une cantine plutôt moderne. Les enfants apportent les légumes, on achète beurre, graisse, pâtes alimentaires pour 0,20 francs par élève. Et ce sont les enfants eux-mêmes qui font la soupe, la servent et font la vaisselle. Mais hélas, ça ne durera pas. Par la suite, je n'ai pas de témoignage concernant cette cantine à La Rode. J'en ai beaucoup en revanche à partir de 1930. Entre 1930 et 1945, c'était un peu pareil. Les enfants, le midi, ne rentraient pas chez eux et ils mangeaient chez des dames du village qui étaient nombreuses à nourrir les enfants dans le bourg. Et cela leur permettait de se faire un peu d'argent et puis de rendre service. Le repas, c'était pas très copieux. C'était le plus souvent une soupe de légumes avec du pain trempé. Et les parents donnaient une certaine somme et même fournissaient les légumes. On m'a raconté une anecdote, il y en avait une dame qu'on surnommait la Fanchette. Et il y a un monsieur qui m'a raconté que ça les amusait beaucoup les enfants, parce qu'il disait, parfois la goutte de son nez tombait dans la soupe, et on disait, le beurre est tombé dans la marmite. Et la Fanchette, elle disait aussi, attention les enfants, touchez pas mon couteau, c'est celui avec lequel je me rase. Vous voyez que
ah oui, c'est assez
ça ne manquait pas d'humour, c'était très pittoresque. Et puis, à partir de 1964, la commune se voit contrainte d'ouvrir une cantine scolaire parce que l'école de Pérignat, dont on n'a pas parlé, ferme. Donc il faut absolument accueillir tous les enfants.
Pérignat, c'est un village de
la commune. C'est un village de la commune. Oui. Et puis finalement, alors c'est d'abord l'hôtel qui s'en occupe, puis on aménage une salle pour la cantine et tout, et puis ce sont toujours des employés du village, des dames du village qui s'en occupent. Enfin, ça n'est pas très évident de trouver du monde pour servir. Oui. Et faire la cuisine. Donc voilà, à l'heure actuelle, en tout cas, c'est une société qui apporte chaque jour les repas.
Voilà, bah écoutez, aujourd'hui, nous avons consacré cet épisode à poursuivre l'examen du travail du législateur, en particulier des lois Ferry et Goblet, de la façon dont elles étaient mises en œuvre à La Rode, avec la création donc, de l'école dont vous avez raconté la genèse. Et puis, nous avons fini avec l'histoire de la cantine. Et je crois que nous pouvons nous arrêter là pour ce deuxième épisode. Je remercie notre invité, Marie-France Bézy, pour tout ce qu'elle nous a raconté. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Merci Marie-France.
RBA FM, Auvergne, Limousin.